Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Votre magazine hebdomadaire Escale est de retour sur la Radio des Nations Unies. Bonjour et bienvenue à tous. Au micro, Martial Assem. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux pays les moins avancés et plus particulièrement à l'apport de la société civile dans le processus d'amélioration du sort de ces 48 pays. Lors de la 4e conférence consacrée au PMA à Istanbul en Turquie et à l'issue de laquelle fut adopté un nouveau plan d'action, près d'un millier d'organisations non gouvernementales venues des quatre coins de la planète s'y sont retrouvées dans le cadre du forum de la société civile. Une occasion pour ces ONG d'échanger leurs vues sur les actions à entreprendre pour permettre au PMA d'être mieux armé au cours de la prochaine décennie afin de réussir le pari du développement. Avocate de formation, la béninoise Huguette Bokpe-Nyakadja y participait en tant que représentante de l'Observatoire du Bénin pour l'Europe. Elle met en relief le rôle de la société civile depuis les assises de Bruxelles en 2001, ainsi que les efforts de son pays pour se sortir de la liste des PMA. Bonne écoute.
Ces assises, pour moi, sont un peu comme ce qui pourrait bien être la bouée de sauvetage, si on va dire, des résultats de cette conférence. Parce que durant le processus préparatoire, on a constaté qu'il y avait un peu comme du plomb dans l'aile du processus d'engagement des pays en griffe les plus avancés vers le respect de leurs engagements. Et on a vraiment le sentiment que pour une fois, le projet ou le draft du programme tarde vraiment à faire l'objet d'un consensus. Et donc, nous espérons que la société civile, qui, elle, ne s'embarrasse pas souvent du langage diplomatique et qui est un peu le porte-voix des sans-voix, peut dire en toute simplicité, en des termes pas forcément techniques, les vrais besoins des populations depuis la base. Et donc, nous profitons, en fait, nous nous engouffrons dans une porte qui a été ouverte, c'est-à-dire l'intégration de la société civile dans le processus depuis son étape préparatoire. Nous nous engouffrons dans cette porte-là pour vraiment dire ce que concrètement les pays les moins avancés attendent des résultats de cette conférence. Nous ne voulons pas seulement avoir une déclaration de plus. Déjà, nous espérons que ce soit la dernière déclaration. On ne peut pas vraiment dire qu'on est spécialement avancé.
Alors justement, parlons du rôle de la société civile. Est-ce que vous direz que ce rôle-là a été justement mis en valeur, sinon mieux mis en avant ces dernières années?
Oui, je crois que déjà la perspective d'une participation de la société civile d'année en année, elle s'est accrue, elle a été davantage acceptée, elle a été véritablement mise en œuvre. Et donc, ça, c'est déjà quelque chose dont je me réjouis. J'ai eu la chance de participer le 1er avril dernier à donc ces échanges qu'il y a eu presque directement entre les représentants de la société civile et les représentants à la fois du groupe des 77 plus la Chine et aussi les pays riches. Et nous avons donc pu échanger réellement. La société civile a donné son avis en disant des choses directes. Vous verrez par exemple que les négociateurs parlent d'un nouveau régime de gestion de la dette, cependant que nous, au niveau de la société civile, nous parlons d'annulation immédiate, pure et simple de la dette. Donc voilà un peu comment nous espérons pouvoir induire un peu plus de vigueur et de détermination dans les décisions. La gestion de la dette ne nous fera pas avancer.
Alors justement, parlons donc des pays riches. Lors de l'ouverture donc du forum de la société civile, l'un des intervenants a dit que l'on constatait une sorte de déficit de la participation des pays riches. Alors qu'est-ce que vous répondez à cela?
Mais je crois aussi que le moment est venu pour nous de peut-être nous pencher un peu plus en tant que pays moins avancés sur les formes de partenariat sud-sud qui pourraient nous être utiles dans les années qui viennent. Parce que sans être pessimiste, quand je regarde aujourd'hui les domaines dans lesquels les pays les plus riches sont amenés à investir, ne serait-ce que par les nouvelles crises auxquelles ils font face, je m'interroge et je me dis il y a peut-être un plan B sur lequel les pays moins avancés devraient réfléchir tout en portant plus haut leurs exigences vis-à-vis du plan d'action d'Istanbul. Moi, je suis beaucoup plus préoccupée aujourd'hui par comment développer la coopération sud-sud tout en poursuivant la coopération nord-sud. Parce que je sens qu'il viendra un moment où l'aide publique au développement pourrait ne plus faire partie de la priorité des priorités au niveau des pays du Nord. Il n'y a pas de mesures contraignantes ou de voies d'exécution pour amener les pays du Nord à tenir leurs engagements si eux-mêmes ils avaient d'autres engagements vis-à-vis d'eux-mêmes.
<t'->
pour ça que les PMA font face à de nombreux défis au niveau environnemental, au niveau économique, pas mal de défis qui donc empêche ces pays-là de pouvoir sortir donc de la liste des PMA. Alors, est-ce que vous êtes pessimiste quant aux ambitions, par exemple, du haut représentant pour les PMA qui disait que d'ici une décennie, ça allait voir le nombre de ces pays-là réduit de moitié?
Il faut déclarer les choses pour les faire venir. Il faut déclarer les choses, il faut y croire pour pouvoir les faire arriver. Je crois que c'est une belle perspective vers laquelle nous devons tous concourir. Mais je vous dis honnêtement, je n'y crois pas beaucoup. Bon, j'observe tout simplement que si ça a doublé entre 1971 et 2011, si le nombre s'est accru et a doublé, j'ai bien peur que ça ne puisse diminuer de moitié dans un délai aussi court.
Le fait de voir, par exemple, trois pays être sortis de cette liste-là ne vous donne pas de l'espoir?
Ça me donne de l'espoir, mais je pourrais avoir plus d'espoir si, au-delà de ce dont nous discutons aujourd'hui, si nous nous asseyons aussi, si nous faisions des conférences, si nous menions des réflexions, des études, pour voir exactement comment ces trois pays-là s'y sont pris, quelles ont été les bonnes pratiques et comment les dupliquer dans nos États. Si on pouvait faire ça, je serais plus optimiste.
Parlons des bonnes pratiques au niveau de votre pays, le Bénin. Est-ce que vous êtes satisfaite ou encouragée par les actions qui sont prises, par exemple, par les autorités pour emmener ce pays-là, par exemple, à pouvoir connaître un développement?
Mes sentiments sont mitigés parce que d'un côté, nous avons avancé, mais de l'autre, dans la vie quotidienne, en fait, du commun des Béninois, je n'observe pas un véritable développement. Nous avons de bons plans, nous avons de bons programmes, mais je pense que nous devons aller plus de l'avant. Nous devons nous pencher, par exemple, un peu plus sur les questions comme l'autosuffisance alimentaire, comment développer notre agriculture, comment libérer, par exemple, le microcrédit qui a été une innovation du gouvernement actuel, comment le libérer de toute contrainte d'ordre politique pour en faire un véritable instrument de développement, mais un instrument de développement durable.
Parlons justement d'un des facteurs qui justement empêche les pays les moins avancés de pouvoir sortir de leurs conditions. On parle de la bonne gouvernance. Par exemple, au Bénin, récemment, il y a eu les élections présidentielles qui ont été contestées par l'opposition, mais on a vu que les choses se sont plus ou moins décantées. Alors, quelle est votre lecture de cette situation?
Eh bien, je dirais deux choses. Je dirais que d'abord, la démocratie dans notre pays a toussé. C'est une certitude. Des voix se sont élevées. L'opposition n'est pas restée muette. La société civile n'est pas restée muette. Il me semble que les Béninois ont préféré la paix à une crise. Parce que surtout, le spectre de ce qui s'est déroulé dans le pays voisin de la Côte d'Ivoire a suffi, je crois, pour calmer les esprits, si je puis ainsi m'exprimer. Il n'en demeure pas moins qu'il est nécessaire, en fait, que nous réfléchissions aux causes de cette crise démocratique que nous avons connue et qu'elle soit corrigée pour ne pas constituer un foyer latent de crise dans les mois ou dans les années à venir. Je peux dire que le processus démocratique a fonctionné, si je puis ainsi dire, puisque chacun a pu s'exprimer. Et il a donc révélé qu'il y a des faiblesses. Et ce qui est important pour que cette démocratie ne recule pas, c'est de corriger ces faiblesses-là. Bon, j'ai entendu dire qu'il y avait une rencontre ou un forum en préparation par le médiateur de la République. Le forum, je crois, aurait été reporté pour des raisons que j'ignore. Un tel forum, moi, je ne le vois pas d'un mauvais œil, mais à la condition qu'il soit un forum où les langues se délient et où la vérité soit dite et où le fait de dire la vérité ne devienne pas une infraction pour laquelle on serait l'objet de représailles. Si on peut remplir ces conditions-là, je crois que la démocratie béninoise continuera de porter ses titres de noblesse.
Si on parlait de l'autonomisation de la femme au Bénin, est-ce que vous pouvez dire que c'est une question qui est traitée avec beaucoup de sérieux par les autorités actuelles?
Je ne crois pas parce que je n'ai pas observé d'avancée dans ce domaine. J'ai été pendant 4 ans membre du comité des Nations Unies chargé du contrôle de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et l'une des choses qui m'a frappée, c'est que j'appartiens à un pays qui est démocratique, qui a des lois neutres au niveau du genre et où même le gouvernement a pris des engagements pour que les femmes soient davantage représentées au niveau des instances de décision. Mais j'observe que depuis plusieurs années, ça n'a toujours pas changé, sinon même que le nombre de femmes dans ces instances de décision décroît. Je ne sais pas encore ce qu'il en sera dans la nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Les résultats des élections législatives est encore en train d'être proclamé. J'attends de voir, mais j'avoue que je suis vraiment déçue. Je suis déçue parce que nous avons un environnement juridique qui est favorable, mais il manque la volonté politique pour que la participation plus grande des femmes devienne concrète dans le gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale et dans les autres instances de décision. Je crois qu'on est, j'appartiens à un pays où on est encore macho. Si je puis parler en termes très simples, où la promotion de la femme reste à l'étape de belles promesses, mais qui finalement continue d'être vaine.
Est-ce que la femme béninoise elle-même se sent concernée par cette problématique? Est-ce qu'elle ne se dit pas que, quelque part, c'est une fatalité dans le sens où les hommes sont emmenés à prendre les décisions et que finalement les femmes ne seront que celles qui, en dernier moment, seront donc obligées de suivre plus ou moins ce qu'auront décidé les hommes?
Non, parce que je connais quand même beaucoup de femmes qui sont volontaires, je connais beaucoup de femmes qui sont capables, je connais beaucoup de femmes qui ont exprimé aussi leur souhait de se voir désignées à des postes de décision. Nous sommes l'un des rares pays où plusieurs femmes déjà se sont présentées, au moins deux femmes se sont présentées aux élections présidentielles, ce qui montre que la volonté des femmes, la détermination des femmes, même si elles ne sont pas nombreuses, elle est là. Mais j'observe toujours que peu de place leur est donnée, au moins pour celles qui ont manifesté la volonté de prendre de la place. Mais je dois avouer que, en particulier dans le domaine politique, vous n'attendez pas qu'on vous fasse de la place, vous frayez un chemin. Et donc, c'est ce que moi, je continue d'encourager les femmes à faire. Je dois avouer aussi que, qu'on le veuille ou non, le positionnement des femmes dans les instances de décision est également fonction de leur indépendance économique. Et qu'à ce niveau, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de femmes qui aient cette capacité-là. Vous en verrez évidemment en ville, dans les zones urbaines, mais à part cela, quand vous allez vers la base, elles ne sont pas très nombreuses à pouvoir se libérer des contraintes économiques pour pouvoir jouer ces rôles-là. Il y a encore du travail à faire aussi au niveau de l'éducation des femmes vers ce genre d'initiative, y compris même la prise de parole en public, la capacité de pouvoir fédérer des groupes, la capacité de convaincre, la capacité d'allier beaucoup de personnes à défendre avec vous la cause que vous exposez. Il y a encore du travail à faire à ce niveau. Je dois reconnaître que la société civile en particulier, les ONG féminines, travaillent beaucoup dans ce domaine.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Huguette Bopé-Nyakadja, avocate et représentante de l'Observatoire du Bénin pour l'Europe, était l'invitée de cette nouvelle édition de votre magazine Excal sur la radio des Nations Unies. Avec elle, nous évoquions les dernières assises d'Istanbul sur les pays les moins avancés et plus particulièrement le Forum de la société civile sur les PMA, de même que les efforts déployés par son pays, le Bénin, pour obtenir son retrait de la liste des 48 PMA. Escal sur la radio des Nations Unies, c'est la fin de ce programme hebdomadaire, présenté et produit par Marcel Assem. Assistante de production Florence Westergaard, ingénieur de son Carlos Macias. Toute l'équipe d'Escal vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.